Un livre est un objet digne de respect.
Absolument.
Comme un in-folio.
Eh bien voilà, j'avais prévu de récompenser tous les auditeurs qui ont pris pour 2020 la 11e bonne résolution d'après UFC que choisir, d'écouter l'autre radio au moins tous les lundis midi pour cette chronique absolument géniale. Les récompenser donc par l'œuvre de François Villon, mais de récents événements relatifs à cet ouvrage m'amène à vous distiller ce chef-d'œuvre ultérieurement.
Bon.
Pour tromper votre impatience, voici à la place une question. Comment se transmet la pensée, la culture, de l'Antiquité à nos jours? Eh bien, voilà un exemple avec la traduction libre de Lucrèce par Charles-Joseph Pankouk, un ouvrage de 1768. C'est un livre qui fait 10 cm par 16,8, un format N12, 65 pages de préliminaires et deux tomes de 188 et 285 pages, le tout en un seul volume. Les plats de couverture sont en carton fort moucheté bleu et noir sans aucune mention. Le mort et la coiffe sont consolidés par une bande de cuir noir. Et sur la coiffe, à 5 faunaires soulignés par des liserés dorés, est gravé le titre de l'ouvrage. Cette reliure date certainement du 19e siècle, elle est donc bien postérieure aux pages du livre. Le papier, contrairement à ce que dit Jean-Pierre Mariel, est un verger de bonne qualité. Ce qui est intéressant, c'est que le libraire imprimeur est la veuve Chastelin à Amsterdam, ce qui m'a quelque peu perturbé, vous le comprendrez aisément. En effet, Charles-Joseph Pankouk est lui-même libraire imprimeur. Mieux, c'est le plus important à l'époque, puisqu'il prend l'initiative de la réécriture thématique et non plus, comme initialement alphabétique, de l'encyclopédie complète de Diderot et d'Alembert.
Rien que ça.
Rien que ça. Cette réécriture lui prendra, non, lui fera 206 volumes, ouf, et ça lui prendra 50 ans. C'est son fils qui la termine.
D'accord.
J'en ai conclu que peut-être cette traduction dite libre de Lucrèce était trop subversive pour être publiée en France et obtenir un privilège du roi. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Mais malgré tout, voilà ce qu'en dit le Mercure de France dans son numéro de février 1768. Date de l'ouvrage. Traduction libre de Lucrèce à Amsterdam, chez la veuve Chastelin, 1768. Nous n'avions pas encore de traduction de Lucrèce qui puisse se lire et nous avons obligation à l'homme d'esprit et de goût qui a bien voulu se livrer à un travail pour lequel il montre tant de facilité et de talent. Au moins c'est clair. C'est d'autant plus clair que petite précision, le dit Mercure de France, en 1768, appartient au même Charles-Joseph Pankouk.
D'accord.
On est toujours mieux servi par soi-même quand même. Revenons au contenu du livre. Qui était Lucrèce?
J'allais poser la question.
Un poète romain du 1er siècle avant notre ère, auteur d'un seul ouvrage, le fameux « De rerum natura », de la nature des choses, à notre époque on le lisait en sixième, un long poème en 6 parties qui décrit le monde selon les principes d'Épicure. Mais alors, nouvelle question, qui était Épicure?
J'allais la poser.
Il n'était pas du tout ce que l'on croit. C'est un philosophe grec qui a vécu au 4e siècle avant notre ère. Chronologiquement, si vous voulez, il y a Anaxagore, qui était le précepteur de Périclès, puis il y a eu Socrate, puis Platon, évidemment, puis Aristote, qui lui a été précepteur d'Alexandre le Grand, et Épicure.
D'accord.
Il y en aura bien d'autres, évidemment, ensuite, comme il y en a eu bien d'autres avant. Voilà, donc comme tout philosophe grec, c'était pour vous classer un petit peu tout ça, tout philosophe grec, il se targue d'universalisme et un avis sur le système du monde, autant que sur la relation corps, âme et esprit des êtres vivants, un médecin avant la lettre. Un point essentiel est que la pensée épicurienne était tellement contraire aux dogmes chrétiens que l'Église a fait éliminer tous ses écrits. Il n'en reste réellement rien.
Incroyable.
Sauf quelques sentences. Et cette fameuse traduction de Lucrèce que l'Église a oubliée. C'est le seul
coup de bol.
Témoin
Gros coup de
que
bol.
L'on ait de la pensée d'Épicure. elle-même évidemment traduite par le sieur Tom Cook, avant qu'elle ne soit diffusée sur l'autre radio, fleuron avancé de la civilisation.
Eh oui.
Mais voilà, Pankook, enfin lettré et intellectuel de son temps, traduit et publie un texte sur lequel il est en parfait désaccord. Mais il ne peut pas le trahir. Alors, dans un préliminaire de 65 pages, il va exposer sa propre version de la compréhension des choses de la nature. Voilà ce qu'il dit dans son premier paragraphe du discours préliminaire. Le poème dont je donne aujourd'hui la traduction est la fameuse philosophie d'Épicure, soutenue autrefois dans Athènes au milieu des sages de la Grèce. Philosophie adoptée dans la suite, avec tous les transports de l'enthousiasme par le poète Lucrèce dans le temps des troubles de Rome. Et il ajoute un peu plus loin, « Mais en exposant la doctrine téméraire de ce célèbre philosophe, je craindrais qu'on ne m'accusât de partager ses erreurs si je ne m'appliquais à les réfuter. » Et effectivement, il y avait de quoi, on va le voir, dans un instant. Mais avant, je préviens d'une chose. On peut faire dire n'importe quoi à des extraits de textes. Épicure ne peut que se baser sur ce qui est observable en son temps pour aller vers une compréhension déductive ou intuitive de son environnement. Il ne s'y trompe d'ailleurs pas et préfère parfois carrément proposer plusieurs lectures possibles plutôt qu'imposer une explication unique d'une observation.
D'accord.
On va vérifier tout ça. Voilà ce que nous dit Épicure qui n'est pas du tout ce que l'on pense. Je pose d'abord pour principe que rien ne peut se faire de rien, même par le pouvoir des dieux. Et si la crainte qui retient nos esprits nous porte à croire que tout ce que nous voyons, soit dans le ciel, soit sur la terre, est l'ouvrage des dieux, nous sommes dans l'erreur. On comprend tout de suite la réticence de l'Église.
L'aspect subversif, terrorisant pour le Vatican.
Et attends, t'as pas tout vu. Je soutiens que l'univers, qui comprend l'espace et la matière, s'étend de toutes parts à l'infini, qu'il n'a point d'extrémité ni de borne. Car pour cela, il faudrait concevoir quelque chose hors de lui, qui l'environna et qui lui servit d'enceinte. Donc, pour Épicure, l'univers est statique, ce qui est logique, même Einstein le pensait. Alors, on va l'excuser quand même de cette erreur. Mais ceci, ça a des conséquences que l'on verra un peu plus tard. Donc, plus loin, il parle aussi de « il ne peut y avoir de centre, de milieu dans l'univers. Le vide et le lieu sont infinis. Et quand il y en aurait un, aucun corps ne pourrait s'y fixer parce qu'un espace vide ne peut faire obstacle au mouvement et qu'il ne peut y avoir dans aucun endroit de l'univers un point où les corps étant parvenus perdent leur pesanteur et s'arrêtent. » Ce qui est assez logique avant, évidemment, la théorie de la gravité.
Bien sûr.
Mais évidemment, l'Église, là, se fâche, car finit la Terre, centre de l'univers.
Eh bien oui, et l'homme au centre de tout ça, eh bien voilà.
Et il continue, le rave. Le temps n'existe point par lui-même. Ce n'est point un être réel distingué de la matière ou de l'espace. Il n'est que la mesure des choses, passées, présentes et futures. On ne peut en avoir l'idée séparément du mouvement des corps ou de leur repos. Alors là, où sont les 6000 ans de la création du monde?
On précise qu'il y a encore, y compris dans le gouvernement des États-Unis, des créationnistes, hein, dont le vice-président.
Dont le vice-président. Alors, après la naissance du monde et la formation de la Terre, ça c'est plus rigolo, de la mer, du Soleil, une grande quantité de matière première s'étant élancée de la masse totale à embrasser toute la circonférence de l'univers. Cette quantité de matière est ce qui sert à la réparation et à l'accroissement des terres, des eaux. C'est de là que le ciel s'est étendu, que ses voûtes brillantes se sont élevées au-dessus de la terre, que l'air a pris naissance, car tous les corps élémentaires se rendent de toutes parts aux lieux qui leur sont propres. Ils se joignent chacun à ceux de leur espèce. L'eau s'accroît et s'augmente par des particules d'eau, l'air par des particules d'air, le feu par des particules élémentaires de feu. Jusqu'à ce que la nature, cette maîtresse universelle de tous les êtres, les porte à leur dernière perfection. Alors en fait, il n'est pas loin de la théorie du Big Bang. Là.
Tout à fait.
Mais sur des bases complètement erronées.
Enfin, on situe l'époque, hein, quand même.
Oui, c'est 4 siècles avant Jésus.
Bah oui, oui.
Bien sûr. Les principes de chaque corps sont éternels, immuables. Rien ne peut être anéanti. La dissolution d'un être n'est que la séparation de ses parties qui se réunissent à la masse totale de la matière. Parce que la matière est éternelle, tout se conserve et les principes ne font que changer de forme sans changer de nature. Autrement dit...
C'est tout à fait. Lavoisier, Jean-Michel nous souffle le nom de Lavoisier, il a parfaitement raison.
Mais Anaxagore l'a dit avant lui aussi.
D'accord. Non, mais c'est,
il
non,
fait
mais
que
c'est,
plaisir,
c'est,
en l'occurrence.
C'est important de voir ce... On est tous les héritiers de quelqu'un et la pensée n'est pas fixe.
Alors, sauf que ce qu'il en dit n'est pas ce que l'on en croit. On le comprend
alors,
comme ça.
Alors, oui,
mais là, un morceau de vache redeviendra un morceau de vache.
Ah, ouais.
Parce que la vache a toujours existé. L'univers est statique.
D'accord, il est pris en expansion, ce qui est quand même...
Donc, tout ce qui est dans l'univers a toujours existé dans l'univers. Un bout de vache devient un bout de vache.
Ben, sur le plan...
Parce que la vache est toujours la vache.
Oui, mais enfin, si on réduit ça au plan atomique... Et
il justement, ce n'est pas l'atome. Hein.
Non, mais il n'a pas tort, parce que les molécules, les éléments de l'atome, les éléments de carbone, on les retrouve dans la vache, mais aussi dans les bouts de papier, dans ta personne, dans la mienne...
L'atome de vache restera dans la vache. Une autre vache.
Pour lui, c'est ça.
Il n'y a que l'esprit et l'âme qui vont faire évoluer les choses, et ça, c'est uniquement chez l'être humain.
D'accord.
Donc, il ne faut pas se tromper non plus. Hein.
Non.
Alors là, le pompon, alors du coup, l'Église n'est plus concernée. Je voudrais maintenant vous faire éviter l'erreur de ceux qui croient communément, que les yeux ont été faits pour voir les objets, ou que les jambes ont un mouvement facile afin que nous puissions aisément nous baisser et nous relever. Il me paraît que c'est mal raisonné que de soutenir que les choses qui servent à l'homme, qui lui ont été données dans la vue de l'utilité, qu'il en a pu retirer. Aucune partie de notre corps n'a été formée à dessein, et pour que nous puissions nous en servir. Mais tous les membres ayant été formés, le temps a fait naître leur usage.
Ah, c'est l'usage qui fait la fonction. Ou c'est la fonction qui fait l'usage.
Voilà, eh ben non, toi.
D'accord.
On n'a pas une main pour saisir, mais c'est parce que on a...
on a eu besoin de saisir que la main s'est formée pour ça.
Ouais. Je peux continuer ou...
Quelques secondes. Allez, quelques secondes.
Oh, ben même largement. Non, parce qu'il y a une autre partie. On n'a pas parlé de l'épicurisme encore.
Oh, écoute, le temps nous presse. Si on pouvait passer directement à l'épicurisme.
Ben justement.
Eh bien, on y va.
Il est doux, lorsqu'on est en sûreté sur le rivage, de voir la mer agitée par la tempête et exercer la fureur sur des malheureux. Ce n'est pas que l'infortune d'autrui donne du plaisir, mais c'est qu'il est toujours doux de n'être que le témoin des malheurs qu'on ne partage pas. On peut voir les mortels errant de toutes parts sur la surface de la terre. C'est du haut du temple de la sagesse qu'on les voit mener une vie inquiète et incertaine, se disputer sans cesse les avantages de l'esprit ou les prérogatives de la noblesse, passer les jours et les nuits dans l'esclavage du travail pour assouvir leur avarisme ou satisfaire leur ambition. Et là, tu ne m'en enlèveras pas, celle-là. Si l'homme réglait la conduite de sa vie par le conseil de la sagesse, s'il savait unir la sobriété à l'égalité de l'esprit, il serait toujours riche. Quiconque sait se contenter de peu n'a point à redouter la pauvreté.
Comme un in-folio.